Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
La saison estivale arrive à grands pas et vous avez besoin de grand air, vous avez envie de camping et de pêche, Pro Nature de Rouyn-Noranda est la solution à vos questions. Une simple visite en magasin vous permettra de constater notre vaste inventaire de cannes, de moulinets, les leurres, aussi bien les lancers légers que les lancers lourds, et les cannes à mouches. Nous vous conseillerons sur les bons produits, tant pour le camping que la pêche. Passez-nous voir chez Pro Nature de Rouyn-Noranda, 59 Avenue Principale, 819-797-2300. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Tous les lundis, c'est Balado Pêche chez Simplement plein air. On y retrouve des entrevues, des chroniques et surtout, on y retrouve des passionnés. La balado, à son meilleur, on la retrouve chez Simplement plein air au www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca sous l'onglet Balado Diffusion. Et voilà, nous sommes de retour et comme tout le monde le sait, c'est le temps de la chronique où on va rejoindre notre bushman préféré, M. Marc Prince. Salut Marc.
Salut Guy.
Hey là, tu nous fais rêver ces réseaux sociaux. On voit du beau poisson que tu prends, du doré. J'ai-tu vu un achigan passer ou j'ai rêvé à ça?
Non, t'en vois de temps en temps.
Oui, hein?
Oui.
Mais là, question que beaucoup de gens se posent, naturellement, on sait qu'il fait chaud, puis il y a beaucoup de gens qui associent la chaleur avec non, on va pas à pêche, il fait trop chaud. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben c'est sûr que, mettons, faut s'adapter avec les températures. Là. Premièrement, là, même nous autres en particulier, là, c'est vraiment dur de pêcher au gros soleil. Là, fait que c'est sûr qu'on va essayer de trouver des endroits là, plus à l'abri des arbres ou ces choses-là. Là. Mais le poisson, c'est, en tout cas, selon mon avis, je me plais à dire aux gens, je suis vraiment pas un professionnel de pêche. Là, je suis un amateur passionné. Là. Nous autres, on va la faire quand même, la pêche, même s'il y a des journées de canicule. Le poisson, il est plus dur à prendre, mais on réussit quand même à en prendre. On va en prendre moins, mais il faut changer nos tactiques puis nos endroits de pêche. C'est sûr qu'on va aller dans des endroits où l'eau va être plus profonde. On va vraiment là, chercher de différentes structures. Nous autres, on pêche beaucoup là, ce qu'on appelle à quai, on pêche du bord. Puis ce qu'on aime vraiment, là, c'est d'aller explorer puis d'essayer des nouveaux coins. Ce qu'on a fait au week-end passé dans le coin d'Anguille, il y a sûrement des gens qui ont dû voir les super de belles images là, qu'on a mis sur Facebook. Là.
Des méchantes belles images en plus. Mais toi, t'es-tu de ceux qui vont privilégier, pêcher soit tôt le matin ou le soir, ou tu te dis, écoute, si j'ai la journée, je prends ma journée?
C'est sûr qu'idéalement, là, vous allez avoir plus de succès tôt le matin ou plus en soirée, mettons, surtout pour les amateurs de doré. Là. Mais nous autres, là, c'est ça, on fait beaucoup d'exploration, on aime ça aller essayer des nouveaux coins, fait que on va pas attendre à 4 heures le soir pour décoller pour aller essayer un nouveau coin. Souvent, là, où est-ce qu'on va se lancer, on sait même pas si on va être même capable de lancer la ligne. Fait que nous autres, souvent, là, on va prendre la journée au complet pour faire de la pêche, puis on va pas arrêter parce qu'il fait chaud. Là. Comme je disais tantôt, on va essayer des fosses qu'il y a plus épais d'eau, c'est à l'ombre des arbres ou des fois là, c'est des rochers ou des arbres qui sont couchés sur l'eau là, qui font de l'ombrage. Fait qu'on va vraiment lancer nos leurres à des endroits plus spécifiques.
C'est ça, puis comment je te dirais ça, là, tu utilises des appâts naturels ou si tu utilises des leurres artificielles?
Moi puis ma fille, on est vraiment des adeptes aux leurres artificielles. On pêche pas du tout avec des leurres naturelles. On en prend moins que beaucoup de gens, c'est sûr, mais notre trip, nous autres, comme on pourrait dire, c'est vraiment, là, on est des pêcheurs qui aiment pêcher au lancer. Puis c'est vraiment là, d'essayer des nouveaux coins, de faire des lancers de différentes structures, puis de différentes techniques, là, mais vraiment tout le temps avec des leurres là, artificielles. On en prend moins, Mais on essaye des techniques nouvelles pour essayer de leurrer le poisson. Puis jusqu'à date, là, on réussit quand même assez bien.
Oui, oui. Oui, ça, ça, on peut le voir, là, que la preuve est dans le pudding, comme on dit. Hein, on voit les photos. Mais quand tu parles de leurre artificielle, on parle-tu de jig, on parle de poisson nageur, on parle de quoi exactement?
Bien, mettons, en début de saison, là, souvent, on va commencer avec des poissons nageurs de plus petite taille. Normalement, là, on fait quand même bien avec ça. Puis plus que la saison, on va avancer, mais souvent, les poissons nageurs qu'on va pratiquer au lancer, c'est des poissons nageurs qu'on va acheter là, qui vont descendre d'une profondeur, je dirais, de 3 à 5 pieds. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que les dorés changent d'endroit, puis ils vont aller dans les eaux plus profondes. Fait que là, si on veut travailler des structures plus en profondeur, là, souvent, là, on va tomber sur ce qu'on appelle le jig, là, les leurres souples. Mm-hmm. Mais on les emploie vraiment, là, on les lance puis on les récupère là, de façon différente. On essaye de différentes techniques, on laisse couler au fond. Idéalement, on sait que souvent le doré va être collé au fond, fait qu'on va laisser descendre notre leurre au fond. Après ça, on va le travailler en ramenant de différentes façons. Puis quand on arrive à une nouvelle place, là, mais ça arrive assez régulièrement qu'on laisse de temps en temps un ou deux leurres au fond, là, mais on apprend à connaître la structure juste à travailler avec, avec notre canne à pêche en ramenant sur le bord.
Oui, c'est ça. Puis quand tu parles de jig, là, comme là, là admettons, tu parlerais de quelle grosseur? Un 8, un quart, un 16? Quelle pesanteur que tu irais? Là?
Ben, nous autres, on travaille surtout avec des ce qu'on appelle des cannes à pêche, des lancers lourds.
Ah,
fait que,
okay.
Ce qu'on fait, nous autres, mettons, là, ce qui va très bien avec ça, qu'on aime la ça prend quand même un minimum de pesanteur, fait qu'on va travailler avec des têtes de jig 3-8.
Ah, OK.
Puis nos poissons nageurs, c'est des poissons souples, là, puis c'est des poissons qui vont jouer, là, je vous dirais, là, entre 3 pouces et demi environ.
OK. C'est pas du bébé, là. C'est quand non. même, ouais, du bon, quand une bonne dimension.
Oui. Cette année, là, la compagnie Baitfish, ils font des nouveaux leurres avec des on appelle ça des paddle tails, c'est,
ouais.
C'est la queue de la façon qu'elle est faite, là, elle donne vraiment un réalisme, mettons, aux leurres souffle. Fait que, puis en plus, ces nouveaux leurres-là, cette année, ils ont injecté de sel puis d'odeur. Fait que je me plais à croire là, que c'est plus productif là, avec ces leurres-là. C'est la compagnie Target Bait qui les fait. Là.
Ah, c'est le fun. C'est le fun, donc ça vaut la peine. Puis ça, bien naturellement, on retrouve ça chez Pro Nature, ces bêtes-là.
Oui,
hein?
Ouais, okay. Chez eux autres, c'est cette compagnie-là qui fait aussi ce qu'on appelle le swimmy fish. Là. Lui, on l'a pêché là, plusieurs années. Là. C'était notre leurre souple de prédilection, qu'on dit.
Mm-hmm.
Mais là, avec le nouveau cette année qu'on a, là, le powder tail, là, lui, là, il travaille vraiment bien. C'est même quelqu'un qui n'est pas habitué peut juste... lancer le leurre, le laisser couler au fond, ensuite de ça, le ramener là, avec des vitesses variables. Là, puis le leurre, en tant que tel, là, va faire le travail là, sans qu'on soit obligé vraiment de le travailler à bout de ligne.
C'est le fun. Et puis là, ben là, le secret, quelle couleur tu privilégies?
Ben nous autres, mettons, présentement, là, on travaille beaucoup avec le orange fluo, le bleu, puis la couleur naturelle, ce qui a l'air vraiment d'un poisson. Là, je dirais que c'est la bédaine est comme un petit genre de brun pâle avec le dessus du dos là, plus noir. Là. C'est trois couleurs présentement qu'on travaille avec. Là, puis, en tout cas, si vous avez vérifié nos photos, vous allez voir. Là, on a même des photos avec les leurres. Là, puis on laisse les leurres dans la gueule du poisson pour que le monde puisse voir là, avec quel produit qu'on pêche.
Oui, puis c'est ça, c'est une bonne chose. Et puis, donc, si je ne me trompe pas, vous ne seriez pas sûr de ceux qui diraient que le fait de ne pas pêcher avec des appâts naturels, finalement, vous empêche de pêcher. Ça ne vous empêche pas pantoute. Là.
Non, absolument pas. D'autres, on pêche qu'avec des appâts là,
artificiels.
C'est sûr qu'il y en a des pêcheurs, mettons, puis c'est bien correct. Je ne dis pas ça pour partir une garde de clocher. Il y a des gens qui vont vraiment pêcher pour en manger. Fait que là, ils vont pêcher plus avec style des marcheurs de fond, avec des vers ou ces choses-là. Puis c'est bien correct. Là, c'est vraiment une belle technique pour trouver du poisson. Nous, ma fille, ce qu'on fait, c'est seulement du catch and release. On fait tout ce qu'on prend, c'est de la remise à l'eau. Fait que c'est ça, on en prend moins que beaucoup de gens, mais c'est vraiment, mettons, c'est intéressant quand tu as travaillé et tu as essayé différentes sortes de
ouais.
Tu réussis à faire un beau doré là, d'une vingtaine de pouces, là, c'est vraiment trippant.
C'est ça. Et puis, naturellement, tout ce que les apports artificiels que Marc discute, ben on peut les retrouver chez ProNature à Rouyn-Noranda. Et puis, en terminant, Marc, si on veut te suivre, si on veut suivre toi et Cynthia, on ferait quoi?
Ben, vous pouvez aller sur Facebook. On a des Facebook à nos noms, soit Cynthia Prince ou Marc Prince. Puis Cynthia a une page Facebook aussi, c'est Cynthia Bush Girl. Fait que vous pouvez vous abonner à cette page-là. Vous allez voir toutes nos sorties de page qu'on fait, là, les photos. Là, c'est vraiment un jour, là, chaque sortie qu'on fait, là, dans la fin de journée, là, on fait un mini-album, là, puis on l'introduit sur ces pages-là. Vous pouvez demander d'avoir un ajout, là, puis ça va nous faire plaisir de vous ajouter.
Oui, puis vous pouvez rejoindre Marc aussi chez ProNature à Rouyn-Noranda au 53 principal. Donc, écoute, Marc, nous, bien naturellement, on se rejoint la semaine prochaine.
Absolument. Bonne semaine, gang.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Nancy Promartin pour la chronique Simplement bouffe. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, on est allé à la pêche et on a attrapé des filets de truites de mer. Ma recette cette semaine, c'est filets de truites de mer pochés au basilic. La préparation est 20 minutes, cuisson 20 minutes, et ce qui donne 4 portions. Si vous désirez 8 portions, vous n'avez qu'à doubler les ingrédients. Préparez vos papiers crayons, je vous donne les ingrédients. Donc, vous aurez besoin de 4 filets de truites de mer, 4 cuillères à table de basilic frais haché finement, un sac d'épinards, 2 citrons, 3 moyennes tomates coupées en petits dés, un oignon moyen haché finement, un poivron vert haché finement, un poivron rouge haché finement, 4 cuillères à thé de câpre, 2 paquets d'asperges et 2 cuillères à table de beurre. Maintenant, pour la préparation, bien vider et nettoyer les truites. Les mettre en filet avec précaution en retirant les arêtes. Dans un panier à étuver en bambou sur un étage seulement, tapissez le fond du panier avec les feuilles d'épinards afin que les morceaux de poisson ne tombent pas. Remplir d'eau la moitié d'un chaudron assez grand pour déposer le panier par-dessus afin qu'il tienne bien. Ouvrir le feu à moyen vif et faire bouillir l'eau. Déposer le panier par-dessus et ajouter les filets de truite. Si un seul panier ne suffisant pas, en préparez un autre de la même manière. Saupoudrez le basilic par-dessus les filets et ajoutez-y un peu de jus de citron d'un demi-citron. Mettre le couvercle et baisser le feu à moyen-bas et laisser cuire 10 minutes. Pendant la cuisson des filets, coupez les légumes en petits dés et les mettre dans un bol à mélanger. Ajoutez le jus du reste du citron et ajoutez les câpres et bien mélanger. Mettre de côté. Coupez l'autre citron en fines tranches et réservez. Dans une casserole à feu mi-vif, faire fondre le beurre et ajouter les asperges et les faire sauter jusqu'à ce qu'elles deviennent très tendres, salées et poivrées au goût. Au moment de servir, tapissez moins de la moitié des assiettes du mélange de légumes et disposez par-dessus les filets de truite et les tranches de citron. Accompagnez-les tout simplement avec les asperges sautées au beurre. Voilà! C'est tout pour cette recette de cette semaine. Vous voyez, c'est pas compliqué, très facile et très délicieux. Et maintenant, allons rejoindre notre amie sommelière Mélissa Goyer qui nous a fait un accord vin pour la recette de cette semaine. Allô Mélissa!
Bonjour Nancy, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, pour ma chronique, je vous présente un vin grec. En fait, un vin qui m'est tombé sous la main lors de ma dernière visite à la SAQ. Je le connaissais pas. Et ben en fait, j'adore les vins blancs grecs. Je trouve qu'ils sont parfaits pour accompagner, évidemment, tout plat à tendance méditerranéenne. Alors, bien sûr, fruits de mer, poissons, légumes grillés. Et en fait, tout plat qui se prendrait sur une terrasse. J'aime vraiment leur côté, leur salinité. J'aime qu'ils soient souvent assez aromatiques, généreux. Et vraiment, tout l'équilibre qu'ils nous donnent en bouche. Alors, c'est vraiment des vins qui vont être puissants, mais aussi raffinés. Je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez de disponibles. Alors, ben voilà, quand j'en trouve qui me semble intéressant, ben je les achète et je les goûte. Donc, cette semaine, donc ce vin que j'avais acheté, ben j'avais envie de l'essayer. Alors, il se nomme Ktima Gerovasiliou Epanomi 2019. Epanomi, c'est le IGP, en fait, donc l'indication géographique protégée. Donc, c'est un peu comme l'appellation. Mais ça traite surtout là, d'un point de vue géographique. Alors, c'est un domaine familial. C'est Evangelos Gerovasiliou qui, dans les années 80, va s'établir dans cette région, Epanomi, après avoir étudié l'agronomie en Grèce et aussi fait des études en œnologie à Bordeaux. Cette région, en fait, on est au nord de la Grèce et vraiment le climat ici va être méditerranéen, donc assez chaud, mais on va profiter quand même de la brise de l'océan. On est sur le bord de la mer Égée, alors on va profiter quand même de la brise de l'océan pour venir rafraîchir un peu les vignes, les raisins. Ici, le propriétaire, donc Evangelos, a vraiment contribué à sauver le cépage Malagousia, qui est le cépage, en fait, qui est un cépage natif vraiment indigène du nord de la Grèce. Et tout comme les cépages autochtones sont presque disparus à un moment donné, quand tout le monde s'est mis à vouloir faire des vins avec les cépages internationaux, là, donc Chardonnay et tout. Mais ici, il a vraiment été sauvé et il constitue vraiment une grande partie de son vignoble. Alors, ce cépage ici, il compose 50% de la bouteille et l'autre 50%, c'est de l'acertico. Alors, encore une fois, cépage blanc grec très populaire. Dans notre verre, ce que ça donne, là, vraiment, c'est du bonheur qui en découle. Alors, à l'œil, c'est jaune, c'est très pâle, c'est typique du Malagousia. On voit quand même les coulisses sur le verre assez sirupeuses, assez denses. Alors, on sait que ça va quand même être riche. Le nez, vraiment, c'est wow, c'est ultra aromatique. On a du melon, un mélange de cantaloupe, de melon-miel. Je ne saurais pas trop lequel choisir. Ça sent aussi le citron. Ça va sentir un peu même les ananas, une petite touche exotique. Et on sent le poivron jaune. C'est vraiment ce qui m'a accroché le plus. Et ben en fait, des poivrons, il y en a dans la recette. Alors, c'est vraiment parfait. Ça va sentir aussi les herbes. Donc, on a une belle fraîcheur et aussi une petite note iodée caillouteuse qui va venir amener une certaine richesse dans le nez. Dans la bouche, ben on retrouve la même chose. Alors, vraiment une belle richesse, du goût, beaucoup de goût, avec une finale qui est saline. Alors, encore une fois, on a un fruit qui est bien mûr, donc le melon qui revient, le poivron jaune. Alors, assurément, on est vraiment plus dans des saveurs jaunes. Donc, comme je disais aussi, l'ananas. On a de l'acidité dans la bouche, mais il y en a, mais un peu comme l'ananas. Alors, c'est l'acidité, mais on sent vraiment le côté mûr. Alors, c'est super équilibré. Puis, ça fait vraiment saliver. Alors, ici, dans la recette avec le poisson, ça va vraiment venir le rehausser. Et les petites saveurs d'herbe, le petit côté végétal, ça va vraiment être en parfaite harmonie pour se marier avec le basilic, les épinards et les asperges qui sont utilisés. L'acertico est vraiment un cépage qui est un peu plus mordant, avec une acidité un petit peu plus présente. Alors, avec l'association du Malagousia, c'est vraiment réussi pour vraiment apporter une rondeur et une richesse supplémentaire. La finale, elle est vraiment typique, donc légèrement saline. Puis c'est tellement bon de finir là-dessus là, quand on mange. Évidemment, le sel, hein, ça rehausse tout. Alors évidemment, le vin va vraiment jouer un peu ce rôle-là de venir rehausser le plat. Donc c'est d'autant plus réussi pour l'accord. Comme je disais plus tôt, le vin est quand même assez riche, assez dense. Alors, il y a quand même un 13% d'alcool. C'est assez élevé pour un blanc. Mais encore une fois, c'est ça, tout l'équilibre qui est là, toute la saveur qui est présente, qui est gourmande. On a vraiment là, toute la justesse, la finesse des saveurs malgré cette richesse qui est vraiment intense, ce qui nous fait que ça dans la bouche, ça nous donne vraiment quelque chose de parfait. Alors, c'est $19,95. Je vous le dis, s'il y en a près de chez vous, allez l'essayer. Honnêtement, tu sais, un vin blanc d'été parfait pour manger, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, je vous le rappelle, Ktima Girovasiliou Epanomi 2019, c'est disponible un peu partout à $19,95. C'était Mélissa Goyer
et Nancy Promartin pour la chronique Simplement Bouffe. Alors, on vous souhaite bonne dégustation, bon appétit, bonne semaine et à la prochaine!
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Et voilà, on est de retour et c'est le temps d'aller rejoindre notre prochain chroniqueur. Un chroniqueur que vous avez appris à connaître car il est là depuis la première année de Simplement plein air. Et pour vous qui êtes nouveau, ben premièrement, bienvenue à cette chronique pêche. Et pour des chroniques pêche chez nous, on le sait, c'est des passionnés. Et j'ai un passionné avec moi en la personne d'un guide et d'un pêcheur professionnel. Et j'ai nommé M. Félix Goulet. Salut Félix.
Salut Guy.
Hey, cette semaine, là, mon cher, tu vas. Là, il y a des oreilles qui sont tendues, c'est sûr et certain, vers l'appareil. Parce qu'on va parler d'un poisson qui est un peu, aux États-Unis du moins, là, c'est le poisson. Hein? Il y a des tournouettes partout. Et oui, on a parlé de l'achigan en petite bouche, mais l'achigan en petite bouche, en début de saison, c'est quelque chose.
Oui, exactement, Guy. Puis oui, tu fais bien de le préciser. Aux États-Unis, dans le fond, les deux espèces d'achigan, l'achigan à petite bouche, l'achigan à grande bouche, c'est les espèces les plus ciblées, les plus prisées par nos voisins du Sud. Des méga gros tournois de pêche, il y a des pêcheurs dans ces tournois-là. C'est un peu comme la ligue nationale des pêcheurs. Il y a des pêcheurs là-dedans qui sont millionnaires, des gros contrats publicitaires avec les compagnies de pêche. Oui, effectivement, l'achigan est un poisson qui fait dépenser, je pense que c'est le poisson qui fait dépenser le plus les pêcheurs. Puis, même au Québec, il y a plusieurs séries de tournois d'achigan dans le sud du Québec qui, dans le fond, qui a quand même des belles bourses, donc plusieurs participants. Aujourd'hui, on parle pas de tournoi, mais on parle bel et bien de la pêche de l'achigan à petite bouche, et ce, en début de saison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une pêche, faut jamais dire que la pêche est facile, mais en début de saison, l'achigan à petite bouche est pas très difficile à prendre. Le pourquoi, c'est que les poissons sont encore en eau très peu profonde, puis quand je dis en eau très peu profonde, c'est vraiment peu profond. Dans le fond, l'achigan à petite bouche, la saison ouvre plus tard en saison parce que les achigans vont protéger leur nid. Autrement dit, ils vont faire un nid, vont pondre des œufs, et l'achigan va protéger ce nid-là jusqu'à temps que les petits achigans soient au monde, que les œufs soient éclos. À ce moment-là, l'achigan va être très, très, très agressif. Tout ce qui va approcher, je te dirais, à moins de 10 pieds le nid, l'achigan va attaquer pour protéger son nid. C'est pour ça que la pêche est quand même assez facile. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lance en bordure du rivage. C'est pas très, très compliqué. On se promène au moteur électrique et on va lancer toute sorte de panoplie de leurres qu'on va parler tantôt en direction du rivage. Puis, s'il y a un achigan pas très loin, de où on fait notre lancer, habituellement, c'est pas trop long qui va attaquer. Ça arrive régulièrement même que le leurre touche à l'eau. On n'a même pas eu le temps de récupérer notre leurre, puis l'achigan est déjà sauté dessus. Donc, ça fait une pêche extrêmement excitante, puis ben, ça fait des belles journées remplies de poissons.
Oui, puis comme tu le dis, les attaques c'est de toute beauté, hein? On voit ça, là. Moi, il y a deux attaques que j'adore, là, quand je pêche. Peu importe si je pêche à la mouche ou au lancer léger, c'est, l'attaque de l'achigan et l'attaque du brochet aussi, là. Quand on le voit sillonner, là, on voit le sillon qui s'en vient sur notre leurre, là. Hic, c'était énervant, ça.
Oui, exactement. Puis tu l'as dit, hein, effectivement, dans les leurres qu'on peut utiliser ou les techniques qu'on peut utiliser, effectivement, la pêche à la mouche, là, pour les pêcheurs à la mouche qui nous écoutent, c'est vraiment un beau moment dans la saison. L'ouverture de la chigue à une petite bouche, ça va permettre aux pêcheurs à la mouche d'avoir autant de facilité à cibler les achigans que les pêcheurs avec des ensembles plus conventionnels. Puis, c'est exactement ça. Les poissons sont peu profonds, donc la mouche se dépose à la surface de l'eau. On n'a pas le temps de commencer notre récupération et bang, l'achigan va mordre. Je voudrais juste ajouter un petit détail, par contre. Là, j'ai parlé de nid, de protection de nid, puis tout ça. C'est exactement pour ça, hein, que la saison de pêche à l'achigan rouvre tard dans la saison. On parle tout le temps là, dans le mois de juin avancé. Souvent, c'est un petit peu dépassé la mi-juin, l'ouverture de la pêche à l'achigan. Puis c'est justement pour ça. Hein. Les règlements sont bien faits. Là. C'est pour justement permettre à l'achigan de frayer et permettre à l'achigan de protéger son nid. Et dans le fond, quand les petits achigans ont quitté le nid, ben là, souvent, c'est là que la pêche à l'achigan va ouvrir. Oui. L'achigan est en près de la rive aussi pour une deuxième raison, c'est que le régime alimentaire de l'achigan à petite bouche est constitué d'écrevisses. Hein. Il va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrevisses. Donc, en bordure du rivage, le long des berges rocheuses où il y a des gros cailloux, ben les écrevisses se cachent au travers dans les craques entre les roches. Donc, les achigans vont être là pour se nourrir aussi d'écrevisses. C'est pour ça que la pêche à proximité de la rive est excellente.
Oui, puis tu as mentionné quelque chose de très important, justement, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui remettent des petits achigans à l'eau, là, par les temps qui courent. C'est pas ouvert. Puis moi, un conseil peut-être, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais comme on le fait pour le doré, si vous commencez à prendre trop d'achigans, changez d'endroit, parce que là, vous les dérangez.
Oui, exactement, exactement. Puis souvent, on a le prétexte, on se cache derrière le prétexte, oui, mais je les remets à l'eau. Je suis d'accord, on les remet à l'eau, mais l'achigan qui va surveiller son nid, c'est pas pour rien qu'elle surveille son nid.
C'est ça.
C'est parce qu'il y a de la prédation. Donc, si on prend l'achigan, le temps qu'on la combatte, si c'est un beau poisson, on va prendre le temps de prendre des photos avant de la remettre à l'eau, ainsi de suite. Il y a le temps de se passer bien des choses en dessous de l'eau et le nid peut se faire vider dans le temps de dire. Donc, oui, effectivement, on respecte les règlements puis on attend que la saison soit vraiment ouverte.
Oui, c'est ça. Puis de toute façon, l'achigan, peu importe si on la pêche en embarcation ou en rivière, croyez-moi qu'après la fraye, l'achigan a faim. Il va venir mordre et puis vous n'aurez pas de difficulté à le prendre, naturellement, si vous êtes aux bons endroits. Mais c'est ça, on ne devrait jamais, mais là, jamais, jamais approcher les nids. Puis il y a une chose aussi, juste en terminant, Félix, on a encore une minute là, et demie. Si l'achigan, souvent, là, on voit en début, après la fraye, là, on va voir des beaux gros achigans. T'aurais beau le lancer tout ce que tu voudras, il bouge pas.
Oui, exactement. Quoi, probablement que les poissons plus gros, eux, ils ont compris depuis longtemps. Hein. Lorsqu'ils entendent brosser une embarcation, lorsqu'ils entendent le moteur électrique, souvent ils vont voir les pêcheurs, hein, parce que l'eau en eau peu profonde, mais les poissons ont une bonne vision. Ils finissent par comprendre, puis même s'ils tombent là à proximité, ils sauteront pas dessus parce qu'ils savent que c'est un subterfuge. Hein? Ils vont se faire prendre par ça. Donc, ils vont être beaucoup plus difficiles à prendre à ce moment-là. Il y a des moyens, par contre. Il y a des techniques encore plus subtiles qui vont faire qu'on va réussir à les prendre. Mais effectivement, ces poissons-là sont, euh, sont assez brillants, on peut dire ça comme ça.
Oh oui, monsieur. Ah, écoute, en terminant, Félix, naturellement, on sait que tu guides sur le lac Ontario et que tu guides aussi, écoutez, en Abitibi et peu importe, tu peux même guider un peu partout et donner de très bons conseils. Si on veut, naturellement, te rejoindre là, pour un soit que ce soit réserver une date ou justement discuter avec toi là, de pêche parce qu'il y a de quoi qui nous taquine puis on n'est pas capable de trouver de réponse, on peut le faire de quelle façon, hein, Félix?
J'invite les gens à me suivre via Facebook. J'ai ma page personnelle, j'ai ma page de guide et pêcheur professionnel, donc les gens peuvent rentrer en contact facilement avec moi via Facebook, puis ça va me faire, comme tu l'as dit, ça va me faire plaisir de répondre aux questions des gens, que ce soit par rapport à une espèce de poisson, une technique de pêche, par rapport à de l'équipement. Je me fais un devoir de répondre à tous les gens qui me posent des questions.
Et voilà, et puis ne manquez surtout pas la semaine prochaine. On va parler de mauvaises conditions météo qui sont souvent gages de succès. Là, je viens d'en toucher quelques-uns. Là. Donc là-dessus, Félix, ben bonne pêche et bonne semaine.
Merci, Guy.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
La saison estivale arrive à grands pas et vous avez besoin de grand air, vous avez envie de camping et de pêche, ProNature de Rouyn-Noranda est la solution à vos questions. Une simple visite en magasin vous permettra de constater notre vaste inventaire de cannes, de moulinets, les leurres, aussi bien les lancers légers que les lancers lourds et les cannes à mouches. Nous vous conseillerons sur les bons produits tant pour le camping que la pêche. Passez-nous voir chez ProNature de Rouyn-Noranda, 59 Avenue Principale, 819-797-2300. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.